Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité de l'UM, l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Et pour commencer, nous sacrifions à la tradition en vous souhaitant bien sûr une très belle et très très divergente année 2024. Les fêtes sont derrière nous et avec elles, le stress et le plaisir de proposer à ses convives une table bien garnie, que l'on soit amateur de banquets dignes d'Obélix ou au contraire partisan d'une sobriété heureuse. À l'heure où l'inflation fait les gros titres, votre budget a sans doute compté pour beaucoup dans l'élaboration de vos menus. Si vous habitez en périphérie, la perspective d'affronter les bouchons vous a peut-être aussi découragé de venir chercher votre plateau de fruits de mer en centre-ville. Quelles que soient vos raisons et les nôtres, nous ne faisons pas tous nos courses aux mêmes endroits, ni de la même manière. Nous n'avons donc pas la même perception de ce que certains appellent notre environnement alimentaire. Pour le dire vite, Lidl n'attire certainement pas la même clientèle que la Biocoop, quoique, et Casino pas la même que le boucher de la place Jean Jaurès, et vous n'aurez certainement pas la même expérience d'achat selon que vous aurez été chez les uns ou chez les autres. Alors c'est une chose de le dire, c'en est une autre de le mesurer, en prenant en compte l'ensemble des facteurs pertinents pour en tirer les bonnes conclusions, par exemple en termes de santé publique. C'est pourtant la tâche ardue à laquelle s'est livrée notre invitée. Elle est épidémiologiste dans le labo Moïsa et s'intéresse aux interactions entre environnement alimentaire et comportement. Sa dernière étude publiée dans la revue Nutrition et Santé, je me suis beaucoup avancée en début d'année, j'ai écrit le titre en anglais mais on y va. Alors, elle s'intitule Store Specific Grocery Shopping Patterns and Their Association with Objective and Perceived Retail Food Environment. J'ai réussi, je l'ai dit en français quand même, mais je ne suis pas sûre de la traduction. Modèle d'achat d'épicerie et leurs associations avec des environnements alimentaires de vente objectifs et perçus. Alors Caroline Méjean, bonjour et bienvenue dans Allume la science.
Bonjour, merci de m'avoir invitée.
Avec grand plaisir. Alors elle est into the wild, elle chasse au rayon boucherie de Carrefour, elle pêche dans les bassins du centre-ville, elle pratique la cueillette sur les marchés de quartier, sans oublier quelques passages inavouables en épicerie de nuit. À mes côtés pour mener cette interview, Aline Perriot.
Pour acheter à manger, bien sûr. Bonjour.
En deuxième partie d'émission, nous vous emmenons sur le campus de La Gaillarde, découvrir les plateformes de phénotypage à haut débit M3P. Cette semaine, Boris Parent nous ouvre la plateforme Phénodine. Enfin, notre invitée de dernière minute est Christelle Tibéry, chercheuse à Géosciences. Elle nous présente un nouvel ouvrage et une conférence, le tout sur un même thème, le Grand Rift africain. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55...
Alors pour commencer, Caroline Méjean, on va vous poser une question donc de définition. Comment vous définissez l'environnement alimentaire ?
Alors l'environnement alimentaire, c'est l'interface entre le consommateur, la production et l'offre alimentaire. C'est très global, hein, ça concerne à la fois l'exposition au commerce pour une population, mais aussi le prix des aliments, la qualité nutritionnelle des aliments ou encore même les systèmes d'information comme le Nutri-Score.
Alors vous parlez également dans cette étude de paysage alimentaire, c'est pas la même chose ?
Le paysage alimentaire, c'est une sous-dimension de l'environnement alimentaire. Il s'agit de l'ensemble des commerces et restaurants auxquels une population est exposée sur un territoire donné.
Donc par exemple, entre l'endroit où on travaille et l'endroit où on vit, par exemple.
Par exemple, donc, si vous vivez à côté d'un marché ou encore la densité de fast-food autour de votre domicile.
Alors, en tout début de votre publication, vous parlez aussi d'une troisième notion qui est le paysage alimentaire perçu. C'est quoi la différence avec le paysage alimentaire ?
Alors, le paysage alimentaire, il se mesure de façon objective à partir de données géographiques et de bases de données sur les commerces et aussi de façon subjective par les habitants. Il représente plutôt l'intérêt des habitants pour les commerces alimentaires autour de chez eux ou dans leur espace d'activité.
Alors, on sait, ou en tout cas, on croit savoir que la culture française est particulièrement réputée pour le lien réel ou supposé qu'elle entretient avec le repas et la nourriture. Donc, est-ce que le paysage alimentaire, il est différent ou est-ce qu'il y a une spécificité très particulière par rapport à nos voisins européens, par exemple ?
Alors, on peut La plupart des données dans la littérature sont d'abord nord-américaines ou australiennes. Donc là, on est dans des paysages alimentaires très différents de ceux des pays européens. Ensuite, la France, oui, la différence, c'est peut-être davantage de marchés plein vent en Europe du Sud qu'en Europe du Nord, ou encore aujourd'hui peut-être un accès aux producteurs facilité par rapport à d'autres pays comme le Royaume-Uni.
Alors, je n'ai pas précisé non plus que votre étude, vous l'avez faite donc dans le sud de la France, à Montpellier, très exactement. Donc, j'imagine que les marchés y sont aussi peut-être plus présents que dans une autre région. Et encore, je ne sais même pas.
Oui, on a, dans le cadre du projet, la métropole de Montpellier était partenaire de notre projet, puisqu'elle était très intéressée à avoir des informations sur les comportements d'achat de sa population et du lien avec l'environnement alimentaire pour aider à la planification commerciale de la ville.
Alors justement, on va rentrer un peu plus en détail dans cette étude. Donc le but, c'était aussi d'explorer les pratiques d'achat d'épicerie des ménages. Et pour ça, vous avez sélectionné une cohorte d'habitants avec une étude qui s'appelle Mon Panier. Est-ce que vous pouvez nous dire donc combien d'habitants vous avez suivis et aussi comment vous les avez choisis ?
Alors, il s'agit d'une étude transversale auprès de à peu près 450 ménages, selon l'analyse, ménages qui vivent dans la métropole de Montpellier, pas seulement à Montpellier, mais aussi dans les communes avoisinantes. On a fait un appel à volontariat à travers les différents médias pour participer à notre étude et on les a suivis. Alors, il s'agissait d'abord d'un questionnaire en ligne et puis pour les populations les plus difficiles à capter dans les études de santé, les populations défavorisées, on a envoyé des enquêteurs sur le terrain qui sont allés les chercher.
Alors donc, dans vos questionnaires justement que vous avez distribués à ces participants, à quoi vous vous êtes intéressé plus particulièrement ?
Alors, dans cette étude, on s'est intéressé évidemment aux caractéristiques des ménages, leurs caractéristiques démographiques, socio-économiques, etc., leur profil d'achat, leur perception donc de leur environnement, de leur paysage alimentaire, mais aussi leur comportement d'achat, comme le disait Aline. On a collecté sur un mois l'ensemble des tickets de caisse de leurs achats et on a analysé l'ensemble de ces tickets de caisse pour comprendre leur comportement d'achat, à la fois sur les lieux, mais aussi sur le contenu des achats.
Donc c'est des achats alimentaires uniquement.
Des achats alimentaires uniquement.
Alors, pour calculer la part dépensée par chaque ménage dans chaque type de distributeur, vous avez listé 11 types de distributeurs que vous appelez des FSS. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça représente, FSS ?
Alors, FSS, pardon, en anglais, c'est Food Supply Store, c'est-à-dire ce sont les magasins alimentaires. Voilà.
D'accord. Alors nous, on a listé ces 11 magasins. Donc il y a les supermarchés, les discounters, les magasins bio, les marchés, les supérettes, les achats en ligne, les boulangeries, les primeurs, magasins spécialisés comme boucherie, poissonnerie et crèmerie, surgelés, magasins d'alimentation et les producteurs. Comment vous l'avez établi, vous, cette classification ?
On est parti de la base de données Siren, qui est une base de données sur l'offre commerciale en France, qui est disponible publiquement, sur la base des déclarations des personnes qui tiennent ces commerces. Et donc, on a utilisé la classification nationale pour notamment comparer à d'autres villes en France.
Alors, vous avez aussi demandé donc aux participants de s'auto-déclarer dans un profil acheteur, c'est ça ? Donc, comment ça se passe, parce qu'il faut que ce soit sur des critères objectifs, on imagine.
Alors, il y a deux choses. Oui, sur les profils acheteurs, c'est en effet une autodéclaration. C'est un questionnaire qui vient plutôt des études de marketing, un questionnaire validé qui permet de comprendre si les individus, quand ils font les courses, préfèrent l'efficacité ou préfèrent les relations sociales, etc. Donc ça, c'est plutôt une perception subjective de ce qu'on est en tant qu'acheteur. Et comme je le disais, les tickets de caisse apporte des informations objectives sur les comportements d'achat des participants.
Alors, je détaille un tout petit peu. Donc, plus de 50% pensent au repas qu'ils veulent cuisiner quand ils font leurs courses, donc dans vos participants. 60% considèrent que l'efficacité est une priorité. Et la deuxième priorité, c'est la recherche de leur promotion. Il y avait des surprises dans ces déclarations ?
pas vraiment de grandes surprises. On imagine bien que, on le verra par la suite en détaillant les résultats, que lorsque l'on va beaucoup au supermarché, on y va plutôt dans une idée d'une efficacité pour faire ses courses et aussi de recherche de promotion et de prix plus compétitifs.
Alors, on y vient justement, les supermarchés, en passant un peu plus en détail dans les résultats de votre étude. Donc, 50% des dépenses alimentaires des ménages, elles sont effectuées en supermarché. 10% chez les discounters, 5% chez les commerces alternatifs comme les épiceries bio, les marchés, les producteurs, 10% dans ce que vous appelez les dépanneurs ou le commerce en ligne, et les 25% restants, c'est dans les boutiques spécialisées, boucheries, poissonneries, boulangeries, etc. Est-ce que c'était une surprise pour vous, ces résultats ?
Dans le cadre de la métropole de Montpellier, on n'imaginait pas une utilisation des supermarchés aussi écrasante dans notre échantillon, parce que notre échantillon, il est quand même basé sur le volontariat. Donc on s'est dit, même s'il est représentatif de la population, on s'est dit que c'était quand même des personnes peut-être plus intéressées par leur alimentation et donc avec une diversité de comportements d'achat. Et finalement, on voit que le supermarché reste très dominant, comme on le voit d'ailleurs dans les études nationales de l'INSEE.
Et oui, pourtant, on en parle beaucoup de cette potentielle remise en question du modèle dominant des supermarchés. Dans les chiffres, ça ne se vérifie pas du tout. Du coup,
Alors, il semble que la remise en question du modèle, il se fait davantage sur les hypermarchés que sur les supermarchés. Aujourd'hui, en effet, les hypermarchés perdent des parts d'achat, contrairement aux supermarchés ou aux systèmes de micro-supermarchés type Carrefour Market, qui marchent très bien, en l'occurrence.
Voilà. Et oui, ça rejoint du coup l'efficacité, ceux qui considèrent, vous parlez du coup dans votre étude, des mêmes achats sous un même toit, en fait, c'est ça aussi, c'est le souhait d'aller vite, quoi.
C'est exactement ça, oui.
Alors justement, quand vous avez repris les dépenses d'achat en fonction des types de distributeurs, vous avez distingué 5 profils de consommateurs. Et le premier profil, il recrute donc les ménages qui fréquentent essentiellement les supermarchés. C'est 49% de l'échantillon. Et est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus précisément qui y sont, quel type de personnes ça regroupe ?
Alors, ça regroupe plutôt des personnes qui vont vers l'efficacité, comme on l'a dit, et vers des prix plus bas, qui cherchent des promotions. On voit qu'ils font plus de 80% de leurs dépenses en supermarché. Hein. Quand on l'appelle supermarché, c'est bien très marqué. Ils sont finalement pas très marqués socialement, puisqu'ils représentent la majorité. C'est un groupe assez hétérogène. Voilà.
Alors, le deuxième profil, vous l'avez appelé diversifié. Donc, c'est ceux qui consomment chez les commerçants alternatifs, donc épiceries bio, les producteurs, dans des magasins spécialisés, donc toujours boucherie, boulangerie, primeur. Donc, eux, ils représentent quel pourcentage de votre échantillon ?
Alors, ils représentent 18% de notre échantillon, ce qui est non négligeable. C'est un profil avec globalement un niveau d'études et un niveau de revenus plus élevé, donc des CSP plus et plus âgés. Ce qui était intéressant, c'est que ce profil, il était plus susceptible... on avait une association avec leur paysage alimentaire où ils étaient plus susceptibles de vivre à proximité d'un marché ou dans leur espace d'activité. Donc, le fait d'être exposé à un marché leur donnait l'opportunité justement de diversifier leur comportement d'achat vers le marché, mais aussi vers d'autres sources de comportement.
Alors le troisième profil, c'est ce que vous avez appelé le profil discount, alors qui s'approvisionne donc essentiellement chez les discounters. Ils sont 12% dans votre étude. On imagine qu'on retrouve dans ce groupe les catégories les moins favorisées. Est-ce que c'est confirmé par vos résultats ?
Oui, c'est bien ça. On retrouve des niveaux de revenus moins élevés et aussi des niveaux d'études moins élevés. Un pourcentage de personnes aussi au chômage plus important dans ce groupe-là.
Et est-ce qu'on a une idée du ressenti qu'ils ont justement de leur paysage alimentaire ? Est-ce que ça se traduit par un moindre plaisir à faire ses courses, par exemple ?
disons qu'ils cherchent évidemment davantage les promotions que les autres profils d'acheteurs, mais ils ne sont pas très distincts. Ils sont distincts aussi sur la perception de leur environnement alimentaire, c'est-à-dire qu'ils ont moins tendance à percevoir, même s'il existe, d'avoir accès à un producteur dans leur espace d'activité ou autour de leur domicile. Ils sont moins sensibles, finalement, à d'autres sources d'approvisionnement.
Alors, vous avez aussi, donc, dans ces profils, le profil dépanneur. Alors, vous m'avez dit que c'était plutôt une mauvaise traduction anglaise. Donc, c'est ceux qui vont s'approvisionner donc, plutôt dans des drives. Ou est-ce qu'ils n'auront pas dans le drive ? Ce sera dans l'épicerie en bas de la maison. Donc, eux, c'est qui ?
Alors, eux, ils représentent aussi 12% de l'échantillon. Ils ne sont pas très marqués socialement, mais en termes de profil d'acheteur, ils cherchent les interactions sociales dans leur achat. Et donc, ce sont des acheteurs qui essayent de se faciliter la vie. À la fois le drive, je n'ai pas le temps, je me fais livrer ou je passe chercher mes courses. Et en même temps, je maintiens des interactions sociales en allant compléter mes courses à l'épicerie en bas de chez moi.
Voilà. On les imagine plutôt en centre-ville,
ils vivent davantage en centre-ville que les autres profils, excepté le dernier dont on va parler. Mais les caractéristiques de leur paysage alimentaire n'étaient pas associées à ce profil d'achat.
Alors justement, le dernier, on peut en parler rapidement, c'est le profil spécialisé, qui va faire ses courses, lui, chez le boucher, le poissonnier ou le primeur. Qui on retrouve là dans ce groupe qui représente 9% de votre échantillon ?
Ils n'étaient pas non plus très marqués socialement. Il y avait quand même un peu plus de retraités et un peu plus de personnes sans emploi que dans les autres clusters. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'ils vivaient aussi davantage en centre-ville. Et ce qui était intéressant, c'est que ce profil, il était associé au fait d'habiter à proximité des commerces spécialisés. Donc on voit bien que c'est parce qu'ils habitent à côté des commerces spécialisés, boucherie, poissonnerie, primeur, qu'ils ont ce comportement d'achat propre.
Alors, une des questions qu'on peut se poser, donc on a vu que le lieu de résidence est assez déterminant dans ses comportements d'achat, mais alors finalement, est-ce qu'on va habiter en centre-ville parce qu'on veut profiter des commerces de centre-ville, ou est-ce que c'est le fait qu'on soit en centre-ville qui fait qu'on va s'intéresser à ces commerces ? On sait déterminer un peu l'origine de ces comportements, dans quel...
Alors, c'est vrai qu'il y a des effets de causalité dans un sens comme dans un autre, de causalité inverse. Alors, l'étude Montpanier, elle permettra de répondre à cette question parce qu'elle est faite à un moment T. On dit étude transversale. Par contre, d'autres designs d'études, ça s'appelle des études longitudinales, permettent de regarder cet effet de causalité. Par exemple, aujourd'hui, on participe à un projet ANR qui se déroule à Paris, Porte de la Chapelle, et on regarde l'effet des changements urbains Porte de la Chapelle, gros réaménagement du quartier, sur les changements de comportement d'achat de cette population et aussi le changement de population même du quartier du fait des changements urbains.
Et oui, ça doit être... Je vous parlais tout à l'heure de Figrol, où effectivement, on a vu chez les mêmes primeurs surgir des panneaux produits locaux un peu partout, alors que c'est exactement les mêmes primeurs. Ça m'a fait rire.
Oui, et dans la métropole de Montpellier, il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. La métropole est en train de faire un état des lieux de son paysage alimentaire, et on réfléchit avec eux à avoir aussi une approche longitudinale pour évaluer ce lien causal, notamment, par exemple, sur un transport de la ligne 5 et regarder comment la mise en place de la ligne 5 va impacter les changements d'environnement alimentaire d'un quartier et donc les comportements d'achat de la population qui vit dans ce quartier.
Alors, justement, votre étude, elle a été réalisée entre mai 2018 et décembre 2019. Donc, on est juste avant le Covid et les confinements qui l'ont accompagné. On a imaginé à ce moment-là que nos habitudes alimentaires, elles allaient changer. On n'a plus qu'une minute, très rapidement. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous, ce que vous avez constaté sur avant Covid, pendant Covid, après Covid, sur la consommation alimentaire ?
Alors, justement, pendant le Covid, pendant le premier confinement, on a réalisé une étude auprès de cette même population pour comprendre leur comportement d'achat dans le cadre du confinement. On n'avait pas beaucoup de changements. En tout cas, les changements n'étaient pas ceux qu'on pensait. On était davantage vers l'utilisation du supermarché, et en particulier du drive, et pas vraiment de se tourner vers les petits producteurs, etc. Maintenant, on peut imaginer que le paysage alimentaire de la métropole, il a évolué aussi depuis 2018-2019. Une question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce qu'il y a davantage de lieux d'approvisionnement vers qui mettent en lien les producteurs et les consommateurs? Ça, c'est une question qui reste en suspens et qu'on pourrait étudier.
D'ailleurs, vous avez encore des études en cours, je crois. Vous nous avez dit notamment sur la durabilité, c'est ça de...
Exactement. Oui. C'est vrai que j'en ai pas parlé parce que ce n'est pas dans cette publication. Mais une deuxième publication est à venir sur le lien entre ces profils d'achat dont on vient de parler et la durabilité d'un point de vue nutritionnel, la qualité nutritionnelle des achats, l'impact environnemental des achats, l'impact environnemental des trajets pour faire ces courses et aussi le coût, évidemment, des achats.
Et on ne manquera pas de relayer vos résultats. Merci beaucoup Caroline Méjean.
Merci à vous.
Et à bientôt dans Allume la science.
À bientôt.
Et on passe maintenant à notre séquence reportage, Aline. On s'est rendu cette fois sur le campus de la Gaillarde.
Oui, on démarre aujourd'hui donc une nouvelle série de reportages au LEPS, le laboratoire d'écophysiologie des plantes sous stress environnementaux, pour visiter les plateformes de phénotypage à haut débit M3P. Et pour le premier reportage de cette série, c'est Boris Parent qui nous fait visiter la plateforme Phénodine, qui permet de faire l'enregistrement dynamique de la croissance des organes d'une plante.
Donc pour décrire l'installation, donc c'est un plateau de 168 balances avec lesquelles on peut mesurer la transpiration et l'état hydrique du sol, c'est-à-dire la caractérisation fine de la sécheresse qu'on va essayer de mettre en place. Et ensuite, on a une irrigation automatique pour chaque pot et on a 540 capteurs de déplacement qui nous permettent de mesurer la croissance de feuilles individuelles à des pas de temps très courts, de 5 ou 15 minutes.
Et alors là, on a des fils qui sont un peu comme des tout petits fils de fer avec des pinces à linge et des fils à plomb, comme à la pêche. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Voilà, ben en fait, c'est un système de contrepoids. D'un côté, on a une petite pince avec laquelle on va accrocher une feuille en croissance. Cette petite pince, elle est reliée à un fil de cuivre. De l'autre côté, il y a un petit plomb de 20 grammes. Entre les deux, il y a un capteur de déplacement et quand la feuille va s'allonger, le capteur va tourner, le signal va être interprété comme de la croissance de la feuille qu'on est en train de mesurer.
Chacun de ces capteurs, enfin de ces pinces à linge, est accroché à une feuille pendant toute la durée de la croissance de la plante ?
Pendant toute la durée de la croissance d'une feuille, donc chez les céréales, les feuilles elles vont pousser de manière successive. Donc on va en général mesurer la dernière feuille en croissance, c'est-à-dire celle qui est en pleine croissance. Dans ce cas-là, on a une plante accrochée par capteur, donc 540 plantes. On peut aussi vouloir mesurer plusieurs feuilles en croissance d'une même plante. Chez le blé, on peut avoir plusieurs feuilles qui vont pousser en même temps. On peut avoir trois capteurs mis sur la même plante. Ça va dépendre de la question de recherche. Donc on aura soit une plante par pot mesurée avec trois capteurs, soit trois plantes mesurées chacune avec un capteur. Donc là, justement, l'avantage de ce pas de temps court, c'est qu'on va pouvoir observer la sensibilité de cette croissance ou de la transpiration à des changements soudains des conditions environnementales que subit la plante, donc des changements de lumière, des changements de sécheresse de l'air, et le tout en interaction avec la sécheresse du sol. Donc en fait, ici, on est quand même en serre, donc on est sous des conditions environnementales fluctuantes, mais qu'on peut retraiter, qu'on peut réanalyser par la suite, des mouvements de température, de sécheresse de l'air le long de la journée, le lever du soleil, etc. On peut le retraiter, l'analyser après coup. Mais on a aussi une petite sœur de cette plateforme dans une chambre de culture, dans laquelle on peut imposer strictement des conditions bien précises et modifier ces conditions à des pas de temps très courts et regarder le comportement de la plante sous ces conditions-là.
Alors la plante, justement, c'est quel type de plante que vous allez étudier ici ?
Donc au niveau des capteurs de déplacement, c'est très ciblé céréales, donc c'est principalement des expériences avec du blé, du maïs, du sorgho, du mil, du riz. Par contre, on peut aussi utiliser cette plateforme principalement pour la transpiration en réponse au déficit hydrique. Et là, on peut analyser un grand nombre de plantes. On a déjà eu des bananiers, des pommiers, tout un tas de plantes d'intérêt agronomique différentes. Cette plateforme, elle était un peu pionnière dans le développement des plateformes de phénotypage. Elle a commencé il y a 20 ans avec quelques balances, quelques capteurs, et c'était sûrement une des plateformes pionnières au niveau mondial. Donc on a cette sensibilité à pas de temps court et on va regarder principalement les réponses de la croissance au déficit hydrique, à la température, etc. Ça nous permet donc de bien caractériser des variétés et ensuite ces paramètres, ces sensibilités qu'on observe, on peut les inclure dans des modèles de culture et essayer de prédire dans quel type d'environnement, dans quel contexte agricole ces types de caractères peuvent donner un avantage ou non.
Alors vous nous avez parlé tout à l'heure d'une petite sœur en une chambre de culture.
Pour la décrire, c'est 14 balances, donc c'est beaucoup plus limité. C'est une centaine de capteurs de déplacement. Et donc c'est sa petite sœur, mais par contre on est en conditions contrôlées où on peut modifier parfaitement toutes les conditions de température, d'humidité de l'air.
Donc là, on regarde la fameuse petite sœur dont vous parliez tout à l'heure. Vous pouvez nous la décrire ? Elle est beaucoup plus petite que l'autre sœur. Du coup, à quoi ça sert d'en avoir deux ?
Donc là, en fait, c'est pas là où les plantes vont grandir. C'est là, pas là où on va les cultiver. C'est par contre ici où on va tester des conditions bien précises et souvent sur une durée très courte. Pendant seulement une journée ou deux, les plantes elles vont sortir de la grande plateforme en serre, elles vont venir pour tester une température, par exemple des hautes températures, des températures plus froides ou des sécheresses de l'air données. Donc pour ça, on n'a pas besoin de les cultiver tout le long de l'expérience. Et souvent, on fait une rotation finalement, donc c'est les plantes les plus avancées qui vont venir ici, et puis ensuite, d'autres vont prendre la place, etc.
Il y a combien de places là ? Vous mettez combien de plantes ?
Donc là, on n'a que 14 pots en général si on veut mettre les balances. Là, la plateforme là, il n'y a pas de balance, on peut en mettre un peu plus. Et on a une centaine de capteurs de déplacement pour suivre la croissance des feuilles.
Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau reportage à M3P. Et on enchaîne maintenant avec notre invité des trois dernières minutes. Christelle Tiberi, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans Allume la science. Donc vous êtes chercheuse à Géosciences Montpellier et vous donnerez ce vendredi à 17h30 une conférence intitulée « Regard croisé sur l'évolution d'un système géologique et écologique, le rift Tanzanie ». Alors en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce rift Tanzanie ?
Alors le rift en Tanzanie, c'est une petite partie des 4000 km du rift est-africain qui va de Djibouti jusqu'au golfe du Mozambique. Et à cet endroit, on a pas mal de volcans, on a pas mal de populations, des populations urbaines qui se développent beaucoup, des populations pastorales. Et l'idée du projet qu'on a eu dans cette région, c'était de voir en fait quels étaient l'impact des processus géodynamiques, donc les séismes, les volcans, sur la population et sur l'environnement. Qu'est-ce que ça changeait et quelles étaient les perceptions des élèves et des gens qui y habitaient.
Alors donc cette conférence, elle prend place dans un projet qui est bien plus large que ça et que vous avez publié donc en novembre dernier sous la forme d'un ouvrage qui s'appelle Le Grand Rift Africain. Donc il a été édité aux éditions du Cherche Midi. Alors ce Grand Rift Africain, vous venez de le décrire en termes de kilomètres. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce système géologique ?
Alors c'est un système, c'est plus qu'un système géologique en fait. C'est un système, c'est un écosystème qui en a plein. Donc il y a une biodiversité absolument fantastique. Il y a des diversités au niveau politique qui est aussi absolument incroyable. Et puis on a tout un enregistrement en fait de ce qui s'est passé depuis des millions d'années jusqu'à maintenant en termes de paléoanthropologie, tout ce qui est paléoclimat, etc.
Vous parlez dans cet ouvrage, vous parlez du rift africain comme un territoire monde. Et effectivement, donc, il suffit de feuilleter un petit peu le sommaire de votre ouvrage pour voir que vous développez des approches extrêmement diversifiées. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de thèmes qui sont traités ?
Oui, alors dans cet ouvrage, en fait, on a voulu vraiment montrer que pour étudier des objets aussi complexes que cette région d'Afrique orientale, on était obligé de croiser nos regards, hein, c'est-à-dire faire appel, si les paléoanthropologues ils voulaient connaître dans quel environnement vivaient nos ancêtres, ils doivent faire appel à des spécialistes des pollens ou à des spécialistes des dents pour voir comment ils se nourrissaient, comment ils allaitaient leurs petits, etc. L'idée c'était vraiment de montrer que en apportant chacun une expertise, notre expertise, on pouvait mieux comprendre comment les choses interagissaient au sein d'un système qui fait, oui, 4000 kilomètres de long et que les populations locales, par exemple, ne voient pas. Ils ne vivent pas le rift comme quelque chose de géologique. Il est là et voilà, ils font avec. Donc, l'idée, c'était ça. C'était de confronter aussi nos a priori et ce qu'on savait du passé, du présent dans cette région.
Alors, ces regards croisés, ils sont nombreux. Il y a combien d'auteurs qui ont participé à cet ouvrage ?
Oui, alors, il y en a 58, si j'oublie personne. donc oui, les textes ont été écrits. Donc, il y a 116 mains qui sont penchées sur cet ouvrage. Des mains pour dessiner aussi, des mains pour écrire. Donc, il y a des paléoanthropologues, il y a des anthropologues, il y a des sociologues, il y a des géologues, il y a des sédimentologues, des géographes. Voilà, il y a pas mal d'expertises qui vont s'intéresser à des objets, à des questions aussi différentes que voilà, comment on voit un volcan, comment un géologue voit un volcan et comment les enfants voient un volcan. Est-ce que c'est différent? Pourquoi? De voir aussi la vie d'un chercheur, un peu qu'est-ce que c'est que la recherche dans le rift.
C'est... Vous me disiez, c'est pas Indiana Jones tous les jours.
C'est pas Indiana Jones tous les jours, heureusement d'ailleurs. Mais voilà, c'est beaucoup plus lent en fait. Il y a toute une temporalité, c'est pour ça que ça s'appelle un peu à la confluence des temps, c'est qu'il y a toute une temporalité qu'il faut aussi. Il faut aussi en tenir compte dans les processus. On a un séisme en quelques secondes, on a de l'érosion sur des milliers ou des centaines de milliers d'années. Et puis, la recherche, ça va de quelques années d'un projet à 10 ou 20 ans quand on veut enregistrer la façon dont le rift s'ouvre, par exemple.
Alors, très, très rapidement, parce que le temps file, donc cette région, on en parle beaucoup comme le berceau de l'humanité, on en parle beaucoup moins en tant que perspective à venir. Et vous, vous faites ça dans cet ouvrage. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner là aussi des exemples de projections ?
Alors, très rapidement, oui, il y a des projections. Alors, au niveau démographique, c'est une région qui explose en termes démographie. Donc, ils sont depuis pas mal de temps soumis à tout ce qui est contrainte de l'eau, depuis beaucoup plus longtemps que nous, par exemple. Donc on a beaucoup aussi à apprendre la façon dont ils gèrent l'eau, la façon dont ça interagit avec les sols, dont le climat et l'érosion interagissent aussi avec la localisation de l'eau. Il y a des enjeux politiques aussi énormes qui font parfois référence à des royaumes qui ont existé, pardon. Je suis pas historienne. Ouais, des royaumes qui ont déjà vécu dans cette région. Donc oui, il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux géologiques, notamment pour les ressources minérales, pour le pétrole, pour les enjeux pour l'eau. Enfin bref, il y a climatique aussi. Il y a énormément d'enjeux. Qui compte, voilà.
Et on vous invite donc à les parcourir, donc soit en vous rendant donc à la conférence où ce sera un peu plus ciblé. Donc la conférence est vendredi de 17h30 à 19h, amphi 2301 sur Triolet, c'est ça ?
Oui.
Et donc votre ouvrage, donc on le trouve dans toutes les bonnes librairies.
Normalement, sinon il faut le commander auprès des libraires, notre libraire préféré.
Et au coût de 35 €, ce qui finalement est très, très abordable pour un aussi joli livre. Il est beau autant esthétiquement que à lire.
Merci beaucoup.
Merci à vous Christelle. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Alice Rollet pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.